Chapitre 4. Faites entrer l'accusé. Peu populaire en France, le genre de la série télévisée judiciaire m'a toujours plu. Ainsi, quand j'étais plus jeune, je passais du temps les dimanches d'hiver, prostré devant notre petit écran avec mon frère et ma mère, à regarder Perry Mason, la série américaine créée d'après les romans de Earl Stanley Gardner. À chaque épisode, nous attendions avec impatience la plaidoirie finale de Perry, interprétée par Raymond Burr. Une sorte de grand oral chargé émotionnellement dont dépendait le sort de l'accusé, impressionnant pour les jurés que les talents d'orateur de l'avocat faisaient passer par tout un tas d'émotions avant qu'ils les abasourdissent par un ultime coup de théâtre. Plus récemment, j'ai découvert l'excellente série espagnole Casa de Papel, que je vous recommande vivement, où Raquel Murillo, une brillante inspectrice de la police, est chargée de négocier une libération d'otages. Pourquoi cette introduction? Parce que dans ce chapitre, nous allons découvrir deux univers, celui des avocats pénalistes et celui des négociateurs de la police. Deux métiers parmi les plus émotionnels qui soient, où il est essentiel d'exprimer, de manière sincère mais aussi un tant soit peu tactique, certaines émotions, et d'en refréner d'autres. Le forcené, le flic et l'otage. Comment, par exemple, un négociateur du raid s'y prend-il pour dialoguer, comme Raquel Murillo, avec un preneur d'otage ou un forcené? J'ai interrogé Christophe Coppen, ancien patron des négociateurs du raid, afin de comprendre comment circulent les émotions entre les protagonistes pour amener l'un ou l'autre à céder. Il nous livre quelques-unes de ses expériences et réflexions. En presque 12 ans de carrière au raid, j'ai vraiment eu l'occasion d'observer les effets de ce phénomène psychologique si particulier qu'est la contagion émotionnelle dans des huis clos à haute tension. Pas moins de 350 opérations de négociation, pour être précis, dont j'étais l'un des acteurs et metteurs en scène. Au centre de chacune de ces histoires sur fond mélodramatique, des personnes en crise, de type forcené, preneur d'otage, en proie à des émotions intenses comme la peur, la colère, l'indignation, la haine, le désespoir, le mépris, ou encore la jalousie, pour n'en citer qu'une poignée. Des interactions émotionnelles se passaient alors entre eux et moi. Comme si des couloirs émotionnels reliaient à distance nos cerveaux limbiques respectifs. À tel point que nous pouvions nous contaminer mutuellement, comme frappés avec fulgurance par un même virus diabolique. Les effets de cette contamination ne sont jamais anodins, et les conséquences parfois paradoxales. Et Christophe Coppen se souvient d'une affaire à côté d'Orléans. Une sordide histoire de rupture et d'incompréhension, de provocation et de menaces, et au final un homme de 30 ans, chômeur, qui disjoncte émotionnellement et prend en otage pour se venger d'une ultime humiliation son ex-conjointe de 27 ans. Arrivant sur les lieux en pleine soirée, le directeur de cabinet du préfet, un homme tout en longueur, sec et impatient, était venu à notre monospace négociation avec la ferme intention de nous expliquer que la situation était désespérée et que l'homme retranché était fou, enfermé dans une logique morbide et dépressive. Je pense que j'avais dû acquiescer, plus par souci de ne pas froisser mon interlocuteur que pour mon adhésion à son diagnostic. Je ne compte plus le nombre de fois où les autorités nous accueillaient en nous disant « On a tout tenté, mais cela ne sert à rien, c'est pour ça que l'on vous a appelé. » Sous-entendu, afin que vous alliez le chercher par la force. Nous arrivions presque toujours en précurseur sur une affaire. Cela nous permettait de recueillir le maximum d'informations utiles avant l'arrivée du reste de l'équipe d'intervention. Ce temps était précieux, car il permettait de valider les critères de dangerosité et de nous faire une idée juste de la crise à traiter. C'est alors que s'était approché un jeune commissaire de police, chef adjoint de circonscription, qui s'était excusé immédiatement. « Commandant, je suis désolé de vous avoir appelé, mais je n'ai pas réussi à le faire sortir. » Il parlait du soi-disant fou retranché avec son ex-petit ami otage. Je l'avais rassuré sur le fait qu'il n'y avait pas de problème et qu'il avait eu raison de nous solliciter, que nous étions là pour ça. Et c'est là qu'il m'avait lâché tout embarrassé. « Oui, mais il n'a qu'un couteau. » Deux longues secondes de silence qui avaient duré une éternité. Devant mon visage dubitatif, il avait réitéré, s'excusant par avance. « Désolé, oui, seulement un couteau. » J'avais dû lui dire quelque chose comme « Ce n'est pas l'arme qui fait la dangerosité, mais la détermination de celui qui la tient. » Il avait soufflé, comme soulagé par mes propos, mais gardait une forme de culpabilité sur le visage qui donnait une juste idée de ce qu'il préoccupait. Pour beaucoup, c'est humiliant d'appeler la cavalerie pour une simple affaire de menace au couteau. Pourtant, il est trop tard, après coup, pour réaliser qu'il n'y a pas de petites affaires et que les erreurs de lecture de la dangerosité se payent souvent cash dans notre corporation. La longue colonne de monospaces noirs qui composait le convoi arrivait enfin sur les lieux. Le directeur de cabinet répétait sa litanie au chef d'unité qui répondait aussi poliment que j'avais pu le faire. Lorsque tous les intervenants furent installés à leur poste, je reçus le feu vert pour prendre contact avec l'homme retranché. Celui-ci nous invectiva copieusement, hurlant sa colère et son jusqu'au boutisme effréné. Au fil de la discussion, je comprenais que son agressivité était en partie due à un effet miroir, basé sur de la provocation entre lui et les primo-intervenants policiers. Le fait qu'il n'ait qu'un couteau avait incité ces derniers à ne pas le prendre au sérieux. D'où sa colère et sa résolution à vouloir nous prouver qu'il ne transigerait sur rien, et qu'il ne se rendrait jamais. Chacun des protagonistes initiaux avait en effet tenté de jouer le rapport de force. Pour l'instant, c'est le preneur d'otages qui avait marqué un point, puisqu'il avait fait fléchir les policiers qui se retrouvaient dans une impasse. Il avait alors fallu passer plusieurs longues heures avant que l'homme admette qu'il ne voulait pas vraiment tuer son ex-petit ami, et qu'il avait plus à gagner à finir cette affaire sans tambour ni trompette. Mission accomplie. Pas de blessés. L'homme se rendait. Je revois encore les autorités en conciliabule, heureuses de ce dénouement, mais déçues que l'homme n'ait pas subi les foudres du groupe d'assaut lors de l'interpellation, laquelle s'était déroulée tout en douceur. Conclusion de l'affaire. Les premiers intervenants et le preneur d'otages s'étaient contaminés mutuellement, au travers des mêmes formes émotionnellement virales, à savoir le défi guerrier et la provocation narcissisante. Chacun avait fonctionné en miroir, montant tour à tour en intensité, sûr d'en découdre, sûr de pouvoir gagner, sûr de faire fléchir l'autre, sûr de son pouvoir. Mauvais calcul. Le cerveau dans tous les sens. Autre prise d'otage, cette fois en Seine-Maritime. L'homme sort d'un licenciement brutal et s'est fait éjecter de chez son ex-petit ami qu'il a en plus qualifié de « loser ». Le mot de trop. L'homme, alcoolisé, a vu rouge. Sortant un fusil de chasse, il a tiré dans la porte d'entrée. Les voisins ont prévenu la police. Il s'est enfermé avec l'ex-petit ami, preneur d'otage presque malgré lui. Police secours ayant échoué à lui faire poser son arme, le raid a été appelé. Les premiers mots que cet homme prononça lors de notre prise de contact furent « Me la joue pas, mec, je sais que vous allez me tourner le cerveau dans tous les sens, vous êtes des manipulateurs, je vous connais, j'ai vu des reportages sur la chaîne des 8, on vous voit embobiner un pauvre type comme moi, vous fatiguez pas, bande d'en... » Le seul moyen de vaincre de tels a priori, c'est de ne pas chercher à se justifier, ni essayer de prouver que nous sommes dans une démarche honnête. Il faut uniquement se mettre dans une posture d'ouverture, d'empathie, qui vous permettra de vous intéresser à la personne en face. Je m'entends encore répondre à ce gars alcoolisé, retenant en otage son ex-petit ami. En attendant, je suis là, et je voudrais bien comprendre ce qu'il s'est passé. Pourquoi, alors que vous semblez être un gars bien, vous êtes-vous mis dans une telle impasse? Et lui, de réagir aussi sec. Mais vous vous foutez de moi, ce qui vous intéresse, c'est elle, cette salope. C'est elle que vous voulez sauver, je compte pas, moi. Ce à quoi je lui répondais du tac au tac. Vous ferez ce que vous voulez d'elle. Cela ne regarde que vous. Vous et votre conscience. Le seul qui m'intéresse ici, maintenant, c'est vous. Car je vois bien que rien de ce qui vous arrive ne vous convient. Et la discussion s'engagea ainsi, malgré les effluves d'alcool et la violence de son mode de fonctionnement. Il ne me fallut là encore que 2 petites heures pour qu'il accepte de déposer son arme et de rendre la liberté à son otage. Comment s'y est-il pris? La réponse est toute simple. Contamination de l'autre par une série d'émotions particulières, en utilisant notamment la surprise et la peur. L'effet de surprise. Parmi les stratégies émotionnelles employées par les négociateurs, on retrouve l'effet de surprise. Celui-ci est utilisé afin de tenter d'abattre le mur des certitudes qui sclérose le psychisme adverse. Lorsque je déclarais avec conviction au preneur d'otages en Seine-Maritime que je me moquais de la victime et qu'elle n'était pas, pour moi, le centre d'intérêt, cela supprima automatiquement l'un de ses moyens de pression. L'homme tirant sa force de la menace qu'il faisait courir sur la tête de son otage. Sortir l'otage de l'équation est un bon moyen pour détourner la problématique. L'idée étant de ne plus être dans un rapport de chantage, de menace ou de violence, tous favorables à l'agresseur, mais de l'amener vers une logique d'impuissance relative, avec un otage qui ne devient qu'un des paramètres de la crise, mais non plus le point central. Et pourquoi pas, pour accentuer ce point, de lancer dans la foulée « Vous ferez ce que vous voulez de cette personne ». Ne dit-on pas, pour reprendre les préceptes de Sun Tzu dans l'art de la guerre, que pour gagner, il faut être prêt à tout perdre. Cette leçon n'est pas qu'une vue de l'esprit. C'est une manière de penser l'équation des rapports de force et de tenter de jouer sur l'effet de surprise. Moyen de contrarier les préjugés par trop évident. Idem lorsque je prenais à contre-pied un forcené dans une autre affaire, sur le point de se rendre, en lui disant « Ne sors pas trop vite, prends ton temps. Tu ne prends pas ta décision de sortie pour me faire plaisir, mais bien parce que c'est ton choix. Je suis uniquement là pour accompagner ta décision, mais pas pour t'influencer. » L'effet de surprise est important, car vous êtes alors auréolé d'une forme d'intégrité qui vous rend crédible, qui facilite la résolution immédiate de la crise. Vous êtes peut-être la première personne qui ose être honnête et loyale et qui semble le respecter en tant qu'individu libre de ses choix. Cela fonctionne d'autant mieux que souvent, les forcenés sont des gens qui ont des sursauts d'honneur ou de fierté, qui ont été égratignés par la société ou par le système et ses représentants. Avoir en face de soi quelqu'un qui vous respecte, qui ne cherche pas à vous faire déposer les armes à tout prix, est une manière de sauver l'honneur et de maintenir un narcissisme protecteur. On a tous envie d'avoir en face de nous quelqu'un d'intègre qui va essayer de garder de la neutralité et de la bienveillance. Cette honnêteté vous interdit d'avoir la tentation de mentir à l'autre. Il faut être courageux pour oser dire la vérité à une personne dans une impasse. Oui, vous allez être mis en garde à vue. Oui, le procureur va retenir contre vous l'incrimination de séquestration sous la menace d'une arme, faits criminels qui pourront vous conduire devant une cour d'assises. Oui, vous pouvez perdre la garde de vos enfants, car la société ne pardonnera pas que vous les utilisiez comme un moyen de chantage. Le seul leitmotiv, dire la vérité. Alors même que la personne se doute de ce qui l'attend, elle jugera de votre crédibilité en partie sur la pertinence de vos réponses. La peur. La peur est également utilisée par les négociateurs, car elle est une émotion parasite archaïque. L'aspect primitif de cette sensation fait qu'elle mélange des données rationnelles. Le fait pour le forcené de voir un tireur d'élite qui le vise depuis un toit voisin reste un ressenti terrorisant, à des impressions irrationnelles. La nuit approche et chacun se sent tout à coup bien plus vulnérable. Les négociateurs savent utiliser les deux faces de ce silex cognitif afin de fragiliser une personnalité. La syntaxe est utilisée à des fins d'influence, tout comme le ferait un avocat en plaidoirie. Une intonation forte sur tel ou tel mot prend soudain une allure de menace, comme appuyer le mot « attention » en début de phrase. Une baisse d'intensité dans des échanges liés à des aveux intimes renforce l'impression de huis clos et sacralise les propos. Les confidences ne s'en trouvent que facilitées. En résumé, les négociateurs utilisent les émotions dans leur travail d'influence. Ils font preuve d'empathie, afin de se mettre à la place des personnes en crise, pour comprendre le système qui s'active et comprendre également derrière les éventuelles demandes formulées ou revendications, quels sont les besoins qui s'expriment. C'est la compréhension de ce que sont les besoins réels qui permet de trouver des clés de réponse adaptées à ces situations. Les négociateurs laissent donc beaucoup s'exprimer la partie adverse. Le moraliste Joseph Joubert disait « On peut convaincre les autres par ses propres raisons, on ne les persuade que par les leurs ». Mais tout ce que je vous raconte là n'est pas issu d'un gène du négociateur qui aurait été propre aux gens de ma profession. Ce n'était pas inné chez moi. Il a fallu travailler pour discipliner la technicité et la rendre fluide et évidente. Contaminer émotionnellement un preneur d'otage est un art qui s'apprend, au terme d'un long cursus de 3 ans d'apprentissage, ponctué de pratiques et de modules théoriques thématiques. Sur la communication, sur la sociologie, sur l'interculturel, sur la victimologie, sur la psychiatrie, etc. Durant cet apprentissage, sachez que nous ne sommes pas que centrés sur la relation exclusive entre le preneur d'otage et le négociateur, l'équation étant quelquefois plus complexe qu'il n'y paraît, quand, par exemple, l'otage noue des liens avec son geôlier. Le syndrome de Stockholm. Ce type de contamination émotionnelle entre le preneur d'otage et les otages représente un risque majeur, et les unités d'intervention surveillent constamment l'apparition possible de ce processus d'adaptation psychique des otages, afin de tenter d'en réguler les effets. 2 affaires, l'une à Stockholm, l'autre à Londres, illustrent différemment ce phénomène. Je les rappellerai rapidement, avant de laisser Christophe Coppen nous en faire l'analyse. En 1973, un malfaiteur, Jan Erik Olsson, commet un vol à main armée dans l'agence du Crédit suédois de Stockholm, où sont présents une 60aine de clients et membres. La police arrive aussitôt. La prise d'otage commence alors. Libérant la plupart des personnes, Olsson garde 4 otages. Il réclame et obtient d'abord la libération d'un complice en détention, Clark Olofsson. Tous deux s'enferment avec leurs otages dans la salle des coffres, un local exigu de 4 mètres par 16 mètres, où ils vont rester plus de 5 jours, dont 2 jours sans manger ni boire. Ils exigent de l'argent et un véhicule pour s'enfuir. Malgré plusieurs tentatives, les pourparlers n'aboutissent pas. Le 5e jour, les autorités ordonnent l'assaut. Mais à l'intérieur de l'agence, un bizarre phénomène de contagion s'est produit, et les otages s'interposent entre les policiers et les truands, prenant le parti de leurs ravisseurs. Par la suite, ils refuseront de témoigner contre eux. Devant l'étrangeté du comportement des otages, les médecins ont réfléchi aux mécanismes qui pouvaient être en cause, et le psychiatre américain Hochberg a déterminé que ce processus psychique, qu'il a donc nommé « syndrome de Stockholm », se basait sur 3 paramètres. L'attachement paradoxal de certains otages à leurs ravisseurs, soit le développement surprenant, chez eux, de sentiments positifs de type sympathie. L'agresseur n'est alors plus vu ni perçu comme un être hostile, mais bien au contraire comme celui qui protège l'otage de l'agressivité des forces de l'ordre. La sympathie réciproque du preneur d'otage vis-à-vis de ses otages. Puisque l'otage trouve des excuses à son agresseur, lui restitue une pensée positive, un phénomène de réciprocité se crée, et l'agresseur ne se sent alors plus capable de faire du mal à sa victime, laquelle vit la même galère que lui. Tous deux se sentent dans le même bateau. Une hostilité, développée par tous, à l'égard des policiers. Hochberg voit dans ce déplacement des sentiments hostiles, où l'otage collabore à son propre supplice, une dynamique inconsciente de survie. Pour donner du sens à ce qu'ils vivent, preneurs d'otages et otages se révoltent contre l'attitude des forces de l'ordre, soudain devenues responsables de l'impossibilité d'en finir conformément au plan prévu, en général la fuite. Otages et agresseurs sont assiégés, d'où cette réaction de repli défensif commune à tous les résistants. La mort imminente est redoutée, nous explique Christophe Coppen, aussi bien par l'otage que par le preneur d'otage, ce qui crée en eux un sentiment commun et un vécu exceptionnel, d'une très grande puissance cohésive. L'otage cherchera à accroître ses chances de survivre. Réaction instrumentale fréquemment observée, en tentant de construire une relation avec l'autre, son agresseur, celui-là même sur lequel il peut interagir. Les policiers, les autorités, pour leur part, sont inaccessibles, donc impossibles à influencer. Si l'otage doit entreprendre une action d'influence, c'est donc sur son agresseur immédiat. Sauf que ce phénomène n'est pas intellectualisé. Il est subi. De plus, bien que la soumission ait été la condition sine qua non de la survie, elle a entraîné la honte et la culpabilité. Dès lors, seule l'adhésion aux thèses de l'auteur justifiera cette lâcheté, en tout ou partie. L'otage cherche à se convaincre qu'au fond, ce type a raison de vouloir voler de l'argent aux banques, que cela ne vole personne, que l'on est dans une société de profit où ce sont toujours les mêmes qui sont victimes du système. Le voleur de banque peut alors devenir un véritable chevalier blanc, porte-étendard des opprimés. De son côté, l'agresseur, inquiet des conséquences de son acte, va chercher à se justifier, espérant ainsi bénéficier de l'indulgence morale de ses victimes. Perdu pour perdu, autant que les gens n'aient pas à rapporter une sale image de lui en cas de procès. N'ayant pas d'autre interlocuteur que ses victimes et le négociateur, il va se tourner vers les moins réfractaires à ses idées afin de faire passer des messages à son avantage. En discutant avec l'otage, il lui restitue une valeur humaine qui sera récompensée, en retour, par un sentiment de gratitude. D'autant plus s'il n'y a pas ou plus de violence exercée. Nous sommes ici en plein dans la contagion active des émotions en situation exceptionnelle. Le syndrome de Londres. Là où le syndrome de Stockholm correspondait à un processus basé sur la survie, le syndrome de Londres trouve plutôt son origine dans un processus mortifère. Le 30 avril 1980, un groupe de terroristes opposants au régime de l'ayatollah Khomeini, nouveau chef de l'État iranien, donne l'assaut à l'ambassade d'Iran à Londres, et 26 otages sont capturés. Ils réclament aussitôt la libération de 91 prisonniers politiques arabes retenus en Iran et l'autonomie politique pour l'Arabistan iranien. Les négociations se passent correctement. 5 otages sont libérés pour raison de santé et les terroristes abandonnent rapidement leurs premières revendications, ne réclamant plus qu'un arbitrage des ambassades et un sauf-conduit pour repartir dans un pays allié. Mais le 5 mai, un des otages, un diplomate iranien, craque nerveusement et exige que cela cesse et que l'on respecte son statut de diplomate. Rien ne peut dès lors le calmer. Les terroristes n'ont pas d'autre solution que de l'abattre, et son corps est jeté par une fenêtre. L'escalade commence alors. Ils menacent de tuer un otage tous les quarts d'heure, et abattent un attaché de presse. Les terroristes sont dès lors dans une impasse. Il leur faut aller jusqu'au bout, réussir leur fuite, ou mourir. Le lendemain, l'assaut est donné, et 5 des preneurs d'otages sont abattus. Le dernier capturé. Que s'est-il passé? L'otage, répond Christophe Coppen, subit de fortes angoisses, notamment dues à la crainte de l'intervention des forces de l'ordre. La panique se lit également dans le regard du ravisseur, ce qui aggrave sa propre angoisse. Un sentiment de terreur commence à occuper toutes les fonctions intellectuelles, entraînant soit une impulsion à agir coûte que coûte, soit une léthargie, voire un blocage, une véritable tétanie. Dans le cas d'un élan impulsif, l'otage recherche une sortie à tout prix, une issue qui lui permettra de fuir l'ineffable. C'est une sensation de panique irrépressible sur fond d'angoisse. Cette fuite peut être physique, fuite, évasion ou attaque des ravisseurs, ou psychique, en cas d'impossibilité de fuir ou de combattre. Cela peut également prendre les formes suivantes. Blocage mental, syndrome d'adaptation régressif, on redevient un petit enfant fragile, bouffée délirante aiguë, car le délire nous éloigne de la réalité traumatisante, folie passagère, hystérique ou obsessionnelle, ou bien, en dernier recours, recherche du suicide par procuration. C'est le fait de se mettre en situation de confrontation en provoquant une tierce personne qui vous tuera en représailles de votre rébellion. Agir pour l'otage est une forme de tentative de reprise en main de son destin. Ici, l'acte est impulsif, immodéré, violent. Comprenez bien que l'ultime évasion possible pour un otage attaché, c'est la fuite opportuniste lors d'un moment d'inadvertance du ravisseur, ou bien la mort, voire également la folie. L'évasion par le suicide devient parfois l'unique mode de fuite accessible, le seul autorisé dans de telles circonstances. C'est le dernier pouvoir pour contrecarrer l'insupportable inéluctabilité de la situation. Et l'otage de se dire, dans son inconscient, « Je suis encore capable de contrôler quelque chose puisque je peux décider de l'instant de ma mort. » Et Christophe Coppen de conclure, à propos de ces deux syndromes de Stockholm et de Londres, « Ce que l'on retient, c'est que dès lors que plusieurs personnes se trouvent ensemble, il peut survenir un ensemble de mécanismes émotionnels paradoxaux qui risquent de perturber le cours normal de leur relation au point de complètement faire dysfonctionner les individus. Rien ne sert de se voiler la face, car nous ne pourrons pas empêcher ces processus interrelationnels complexes de se produire. Ils sont inhérents à la nature même des tensions qui s'exercent au sein d'une communauté. Aucun système n'est protecteur contre leurs effets. Ces phénomènes sont suffisamment fréquents et perturbateurs pour mobiliser l'attention de toutes les unités d'intervention dans le monde, car ils sont universellement observés, quelles que soient les cultures. L'arroseur arrosé. Un brin provocateur, je pose à Christophe Coppen une autre question. Le criminel peut-il prendre émotionnellement le dessus sur le policier négociateur? On peut légitimement se poser cette question. Car dès lors que plusieurs personnes interagissent entre elles, le risque d'être soi-même influencé par l'autre partie est élevé. D'expérience, je peux vous assurer que certains criminels ont une force de conviction, une personnalité ou un charisme qui peuvent contagionner n'importe quel policier. Ainsi m'est-il arrivé à plusieurs reprises, lorsque j'étais en groupe de répression du banditisme de la police judiciaire, d'avoir arrêté des malfaiteurs que l'on nommait entre nous des « beaux mecs ». Il s'agissait là de voyous d'envergure, de plus ou moins gros caïds, dont la personnalité, parfois fantasque, souvent bravache, toujours audacieuse, poussait à une certaine forme de respect. Ils avaient souvent fière allure, même en garde à vue, malgré les traces de lutte dont leur visage témoignait et qui ne laissaient aucun doute sur la nécessaire force qu'il nous avait fallu engager pour les maîtriser lors de leur arrestation. Lors des auditions, le récit de leurs exploits, les informations cocasses sur leur vie privée et les fréquentes turpitudes de leur enfance pouvaient contribuer à renforcer la sympathie ressentie parfois à leur contact. Je me suis souvent dit « Dommage que ce gars ait pris le mauvais train, car il aurait pu être quelqu'un de bien. » À d'autres moments, leur histoire est un véritable épisode funeste des misérables, pour lequel n'importe qui aurait eu de la compassion et de l'indulgence. On se dit alors dans le secret de nos pensées « Il a de bonnes raisons d'avoir mal tourné, et il a une volonté de survie impressionnante, qui fait qu'il cherche à supplanter toute cette détresse en luttant. Sacrée force de caractère. » Tourné vers le crime. Dommage. Contrairement à ce que l'opinion populaire semble raconter, tous les criminels ne sont pas de sombres âmes amorales. Certains arrivent même à être attachants, car ils ont des valeurs à eux, qu'ils respectent comme des règles internes à leur écosystème. On n'attaque pas les personnes âgées ou les flics. On ne vole pas les pauvres gens, mais les banques. On parlait alors de bandits d'honneur. Faussaires, contrebandiers, trafiquants ou caïds faisant régner l'ordre sur des provinces entières, tels des patriarches mafieux, catégorie désormais désuète, tant l'extrême violence aveugle et la radicalité des jeunes générations de truands contrarient cette image d'Épinal. Reconnaître une certaine forme d'attirance à leur égard n'enlève rien à la gravité de ce qu'ils commettent, ni à la nécessaire intransigeance de la justice à leur encontre. Mais cela vous pousse à admettre que nous ne montons pas tous dans les bons wagons lorsque nous sommes dans la gare de triage de l'existence. D'aucuns empruntent les mauvaises voies. Je me suis souvent dit au cours de ma longue carrière de patron des négociateurs du raid que tel ou tel gars en face de nous était en réalité un bon mec, mais totalement dépassé par les événements, ou malchanceux, et que la fatalité frappait parfois, comme la foudre, par hasard, sur le crâne d'un type lambda, brisant sa vie et modifiant sa destinée, sans qu'il puisse s'extraire de cette lessiveuse à événements. À l'inverse, certains auteurs de crimes ou de délits cherchent à provoquer dans l'esprit des policiers intervenants des sentiments de révolte, de colère ou de haine. Cela leur permet de radicaliser la relation avec les forces de l'ordre et ainsi de se placer dans une impasse où plus personne ne fera de concession ni n'aura d'indulgence. C'est un moyen, souvent inconscient, de provoquer une répugnance, un rejet, qui s'auto-alimente et permet à l'auteur, forcené ou preneur d'otages, d'éviter d'avoir une quelconque faiblesse. C'est souvent le cas avec des profils paranoïaques, qui ont une défiance énorme à l'égard des tiers, policiers, autorités, etc. En obligeant leurs interlocuteurs à se radicaliser contre eux, ils justifient ainsi leur propre détermination homicide. Lorsque le policier se retrouve confronté au bon mec ou à l'individu odieux, ce qu'il sauve, c'est le fait qu'il travaille toujours en équipe. Être plusieurs enquêteurs sur le coup permet de restaurer les barrières défensives de celui qui est sous influence néfaste. évitant ainsi que le policier s'attache émotionnellement à un voyou ou à un forcené qui semble sympathique, ou au contraire, se radicalise contre un personnage qui suscite la haine et le dégoût. Les équipiers sont là pour permettre de sortir la tête du sable et vous ramener à la réalité, ou à l'objectivité salvatrice. Parfois, il m'arrivait d'aller loin dans l'intimité de la relation avec le forcené, et plusieurs dizaines d'heures de téléphone dans un huis clos émotionnellement déstabilisant, cela laisse des traces. Lorsque vous parlez pendant longtemps à un type désespéré qui vous raconte sa vie, avoue des éléments très personnels, évoque ses peines et ses déroutes ou vous prend à partie pour que vous donniez votre avis sur ce qu'il vit, un lien inévitable de proximité se crée. Ce lien abaisse vos propres résistances intellectuelles. Vous pouvez alors facilement basculer dans la sympathie. Les autres équipiers, et notamment le psychologue du groupe, par leur présence rassurante, ont cette fonction de filet émotionnel. Ils doivent vous empêcher de tomber dans le panneau de la compassion et de l'indulgente faiblesse décisionnelle. Ils doivent raison garder, eux, les gardiens de la pratique professionnelle, là où vous-même plongez dans les abysses du forcené. Victor Hugo dans Les Misérables prétendait à juste titre que nos chimères sont ce qui nous ressemble le plus. Il est vrai que nous avons tous nos propres faiblesses, nos propres fantasmes ou illusions sur ce qui est juste, injuste, vrai, faux, rassurant ou inquiétant. Nous classons cognitivement le monde entre possible et impossible, créant ainsi, autour de notre psychisme peureux, des pans entiers de zones blanches qui deviennent des points aveugles avec le temps. Nous ne cherchons même plus à défier nos croyances. D'où la nécessité d'être à plusieurs experts ou praticiens, avec psychologue ou psychiatre, afin de limiter les risques d'aveuglement et les effets tunnels, le fait de ne voir qu'une partie de la problématique et non sa globalité. Lorsque vous êtes conscient de tous ces écueils, vous acceptez de travailler en équipe. Le piège dans lequel le négociateur peut tomber est celui des bonnes relations. Rien n'est plus récurrent que la faiblesse que nous avons tous, dès que nous avons commencé à obtenir un début de résultat positif dans nos négociations, de se sentir tenu par ces avancées et, dès lors, dans l'impossibilité de dire non à notre interlocuteur. Le risque de gâcher la relation, si précaire et fragile, semblerait nous interdire toute idée d'opposition ou de confrontation. C'est ainsi que de nombreux négociateurs novices tombent dans le panneau de personnages habiles qui jouent de ce mécanisme pour obtenir des concessions qu'ils n'auraient jamais eues s'ils n'étaient passés par une phase initiale réticente et combative. L'étape suivante est alors de demander en retour des concessions premières, par effet de réciprocité. Nul doute que l'interlocuteur novice ne saurait prendre le risque de gâcher les bonnes relations obtenues de haute lutte et repartir à zéro. C'est précisément la peur qui le gagne dès lors que l'adversaire semble résolu à abandonner toute discussion, à rompre tout dialogue. Or, la première chose que nous apprenons à nos négociateurs, c'est qu'il ne faut pas hésiter à refuser toute option non conforme à la stratégie, quitte à provoquer un clash et à revenir au point de départ. En réalité, sachez que l'on ne repart jamais de zéro, car les avancées et concessions obtenues sont autant de chemins parcourus, cognitivement, et sont donc à mettre au bénéfice du temps écoulé. Ce chemin est déjà admis intellectuellement. En plein paradoxe émotionnel. En résumé, personne n'est à l'abri d'une influence machiavélique qui ferait perdre le sens commun et la prudence. Tout le monde peut se retrouver victime du piège des bonnes relations lors de négociations à enjeux majeurs. On doit toujours se préparer à tout perdre, le cas échéant, pour ne rien sacrifier de nos intérêts. Ce qui sauve grandement les négociateurs, c'est de travailler en équipe avec des collaborateurs susceptibles de garder une certaine distance émotionnelle avec les protagonistes et ainsi de pouvoir voir ou comprendre les processus de contagion qui se profilent. Mais l'équipe n'est pas non plus une garantie absolue, un pare-feu émotionnel infaillible. Pour preuve, dans quelques cas extrêmement rares, il est arrivé qu'un preneur d'otages réussisse l'exploit de contaminer émotionnellement toute l'équipe du raid. Tout d'un coup, vous basculez collectivement dans des émotions négatives de type doute, peur, colère, haine ou révolte. Pour l'expliquer, il faut bien comprendre que la dynamique de groupe est un accélérateur incroyable des émotions humaines. Notre cerveau conserve une trame archaïque qui influence de nombreux comportements et notamment la dimension grégaire des groupes humains. De tout temps, les leaders ont cherché à manipuler cette dimension primitive de nos élans. Au XXe siècle, nous avons pu voir l'efficacité des grands cérémoniales nazis ou soviétiques ou nord-coréens, où des milliers de personnes exécutaient des chorégraphies guerrières, des parades, dans une euphorie impressionnante, ayant pour but autant de terroriser les ennemis potentiels que de stimuler le nationalisme et la frénésie du peuple ciblé. Ces grands messes militaires servent un objectif de contamination générale des émotions. Elles sont l'expression grandeur XXL de ce que sont les phénomènes de contagion des petits groupes. À ce sujet, laissez-moi vous raconter une histoire. Dans l'Essonne, un individu retranché dans son appartement tirait copieusement au fusil depuis la fenêtre de son appartement dans une cité populaire. Le raid avait été sollicité. Une fois tous nos effectifs déployés, je commençais les négociations depuis une sortie de garage sous les fenêtres du forcené. Celui-ci, âgé d'une cinquantaine d'années, souffrait de troubles psychotiques sournois, de type paranoïaque, et avait décidé que le jour du déclenchement de sa guerre personnelle contre les autres, le reste du monde, était enfin arrivé. Voyant que je ne sortirais pas de ma cachette, sous ses fenêtres, malgré toute la mièvrerie qu'il tentait d'utiliser pour m'amadouer et me pousser à la faute, il confectionna un cocktail Molotov improvisé et me le jeta dessus, manquant de me brûler vif. En tant que négociateur, vous êtes conditionné par une certaine forme d'indulgence et d'empathie vis-à-vis des personnes en crise. Vous devez vous concentrer sur ces sentiments afin de pouvoir vous mettre en condition de pouvoir parlementer. Or, dès lors que votre interlocuteur tente de vous griller vif, le pacte moral se rompt. Je me souviens de la haine ressentie et surtout de la colère de mes collègues après cet incident. Une rumeur parcourut l'équipe, une sorte de grondement sourd d'équipier en équipier dont la teneur était « Attention, on se prépare à y aller. Il va voir ce qu'il va voir. » Le procureur de la République et le directeur de cabinet du préfet, nos deux autorités de tutelle présentes sur ce genre d'affaires, donnaient leur aval à une intervention en force afin d'interpeller le forcené. Eux-mêmes étaient d'une gravité offensée, comme si le type en face avait dépassé une limite morale insupportable et que dès lors, les lois du combat à mort prenaient le dessus sur celles de la résolution pacifique. Avec mon autre collègue négociateur et notre psychologue, nous montâmes les escaliers afin de rejoindre la queue de la colonne d'assaut qui déjà forçait la porte de l'individu. Celui-ci tirait à travers les cloisons et les impacts provoquaient des projections d'escarbilles et de gravillons. Les raideurs de la tête de colonne commencèrent à grenader, à la munition offensive, donc non criblante mais seulement détonante, ce qui provoque des chocs cataleptiques pour la personne cible. Le chien d'assaut fut lancé et c'est lorsqu'on entendit le gars hurler à l'intérieur de l'appartement que les binômes de tête entrèrent à leur tour. Le forcené, malgré des morsures du chien au visage, sa joue droite avait été largement atteinte et à l'un des bras, trouva la détermination et la force de lever une dernière fois son arme en direction des raideurs et de tirer sur eux. L'un de nos gars eut le câble d'oreillette de sa radio, à quelques millimètres de sa jugulaire, sectionné net par le frôlement d'une balle à sanglier tirée par le fusil de chasse de l'agresseur. L'homme fut malgré tout maîtrisé. Nous étions dans un mélange de haine et de contrôle, en plein paradoxe émotionnel, en pleine ambivalence, ne sachant réellement si nous voulions faire payer à ce salopard les tentatives d'assassinat qu'il venait de perpétrer contre nous, ou s'il fallait se maîtriser et retrouver une posture professionnelle de circonstance. Nous venions de nous faire une raison, et notre discipline nous avait ramenés au dernier moment sur la voie de la sagesse. La séniorité et l'expérience des collègues présents ce jour-là nous avaient permis de dépasser la contagion émotionnelle latente et de nous comporter sans débordement. C'était compté sans la perversité du personnage. L'homme avait cherché délibérément à nous tuer, et il poussa la provocation, une fois menotté, jusqu'à nous demander d'une voix presque mielleuse. « J'espère que je n'ai touché personne. » Ce fut une phrase de trop. L'un des raideurs lui éructa une insulte au visage, lui intimant l'ordre de se taire, ce qui amusa copieusement le forcené. La tension était vive, et nous avons tous ressenti à ce moment-là l'envie de passer à tabac ce type, dépourvu tout à coup de toute humanité à nos yeux, comme s'il s'agissait d'un monstre froid qu'il fallait écraser définitivement. Vous sentez alors une boule monter dans la gorge jusqu'à faire un nœud oppressant. Un bouillon d'adrénaline s'immisce dans vos veines, et vous sentez une chaleur gagner votre cou et votre visage. La colère est là, toute proche, prête à vous faire basculer dans la faute. Nous avons alors demandé que le forcené soit immédiatement évacué et remis aux effectifs de police du commissariat. Une fois soustrait à notre vindicte, nous avons pu laisser retomber notre révolte vengeresse et revenir à des sentiments plus apaisés. Mais n'allez pas croire que cette régulation émotionnelle par le groupe fut chose aisée. Car un sentiment de révolte qui contamine un groupe tout entier est d'une puissance inouïe. Rémanente et sourde, cette émotion vous laisse un goût amer dans la bouche, entre acrimonie et offense. Il n'aurait fallu alors qu'une étincelle pour faire déraper la situation, pour que la violence intrinsèque à la nature combattante, voire parfois bestiale, des membres du raid vienne submerger notre raison et nous livre à notre nature reptilienne. Car une fois la première violence exercée, le frein moral est levé, et le risque d'un déchaînement collectif irrattrapable grandit. La violence déployée en réponse est la résultante de cette colère trop longtemps contenue. Ainsi naissent les révolutions. D'une accumulation de toutes les frustrations et séditions individuelles, lorsqu'elles trouvent enfin l'élément déclencheur à leur révolte. Un groupe d'individus, je généralise ici, peut ainsi être mu par un désir collectif de vengeance, qui est un ciment fort car il donne l'illusion que l'ensemble des membres du groupe est habité par les mêmes émotions. Ici, le désir de vengeance est vécu comme une légitime forme de justice face à l'ignominie d'une situation offensante. On attend tous que celle-ci, la justice, punisse à la hauteur de l'offense subie. Mais la déconvenue est fréquente. Et avec le temps et la déception, les gens se confortent dans l'idée qu'il n'y a en fait aucune justice dans ce bas monde. D'où la tentation de faire justice eux-mêmes. Les groupes, notamment dans une forme spontanée, se contaminent souvent autour de ce principe vengeur, car c'est un moyen d'exorciser les peurs archaïques au travers d'un passage à l'acte fédérateur. Le nombre de fois où j'ai entendu des policiers, gendarmes ou pompiers dire « avec une balle dans la tronche, l'affaire aurait été réglée vite fait » nous indique bien ce qu'est la tendance humaine naturelle, celle que l'on observe dans bon nombre de pays en guerre ou pays dans lesquels la violence est par trop endémique. Le désir de vengeance est un moteur naturel, logique, historiquement ancré dans les fondements de bon nombre de sociétés primitives. Par exemple, la loi du talion du code d'Hammurabi à Babylone en 1730 avant Jésus-Christ. Nous avons refoulé cet instinct en confiant aux juges et aux différents codes et réglementations le soin de proportionner la réponse sociale, de punir au nom de la société et d'ainsi éviter les interminables vendettas entre factions ou familles. Mais cet élan est resté ancré au plus profond de notre psychisme, prêt à trouver l'occasion de s'exprimer violemment. La désinhibition en groupe légitime ce principe, et les colères se transforment vite en haine insensée, paravent tragique à d'autres émotions bien funestes. Ainsi, ce qui nous rend collectivement forts peut également devenir notre faille et notre point de vulnérabilité. Une émotion qui contamine tout un groupe ne saurait se réguler seul. Se décontaminer en direct. Et comment se décontaminer de ces émotions négatives? Je partagerai avec vous un dernier exemple qui montre à quel point il est difficile de se décontaminer en direct live dans une situation à enjeu d'une émotion forte à laquelle vous êtes en proie et qui, par effet boule de neige, peut atteindre vos collègues et faire capoter une opération. Le plus important étant ici de la tuer dans l'œuf, surtout quand l'agent pathogène, c'est vous, à savoir le chef sur qui tous les yeux sont rivés. Je prenais part à un exercice au Stade de France, au cours duquel je fus en proie à une émotion déstabilisante. Une prise d'otage massive y était jouée par une équipe de faux terroristes, lesquels retenaient un grand nombre de figurants. Nous étions engagés afin de résoudre cette énorme situation de prise d'otage. Notre long convoi d'une trentaine de véhicules s'était élancé de notre base près de Villacoublay et nous roulions à vive allure, toutes sirènes hurlantes et pare-choc contre pare-choc pour nous frayer un chemin au milieu de la circulation. J'étais avec mon équipe dans un monospace situé au milieu de convoi. Le compteur affichait plus de 100 km/h, ce qui nous faisait frôler un grand nombre d'automobilistes alentour. Un embranchement avec une voie d'accélération, une voiture conduite par une vieille dame aux cheveux poivre et sel surgit sur notre côté et manqua de nous percuter. Mon collègue donna un coup de volant afin de l'éviter, mais juste derrière nous, la voiture de la conductrice coupa la route au monospace qui nous suivait. Nous avons alors vu la voiture s'exploser littéralement contre le monospace des collègues. Plusieurs voitures ont aussitôt fait des têtes à queue, alors que nous entendions les percussions de plusieurs carrosseries. La tête de convoi poursuivait sa route, inconsciente de l'accident violent qui venait de se produire. Derrière, le chaos venait de couper net tout mouvement. Était-il mort? Grièvement blessé? Qu'advenait-il de la petite dame aux cheveux blancs? Soudain, j'ai ressenti une émotion de dégoût, mêlée d'inquiétude pour les gens impliqués dans l'accident. Dégoût, car cet accident grave venait de se produire alors que nous nous rendions sur un simple exercice. C'était trop stupide. Nous prenions des risques à longueur de temps, mais pour de bonnes raisons, comme celle de sauver la veuve et l'orphelin, comme nous avions l'habitude de le dire pour nous moquer de nous-mêmes. Cet accident-là était la conséquence d'un risque inutile, donc inadmissible. Plusieurs longues minutes se sont écoulées avant que nous n'ayons les informations du chef d'unité, lequel nous rassurait sur le fait que personne n'était touché grièvement et que deux véhicules de chez nous étaient hors service. La vieille dame s'en sortait également indemne, d'après les premières informations. Je vous parle de cette affaire car j'ai encore en moi l'émotion étrange que j'ai ressentie ce jour-là. Il s'agissait d'un mélange irrationnel entre nécessité de poursuivre la mission et inquiétude et dégoût. Dans ce genre de situation, il est alors très dur d'arriver à faire abstraction de vos émotions, d'afficher une image imperturbable. Car vous vous devez d'être exemplaire, un leader droit dans ses bottes. Il vous faut alors, car vous vous savez très émotionnellement contagieux, jouer la comédie du gars que rien n'affecte. Mais dans votre fort intérieur, vous êtes bouleversé par la stupidité de la situation. Comment faire pour gérer au mieux cette ambivalence? À vrai dire, nous avons été entraînés à cela. Ainsi, savons-nous faire un switch cognitif entre les émotions et les impératifs de la mission. Comme si une bascule mentale se faisait mécaniquement, par la simple volonté. Nous forçons notre psychisme à se reconcentrer uniquement sur la mission, dans un processus quasi psychopathique. Le point de focalisation devient alors la mission et ses impératifs. Le doute, la peur, le dégoût, la colère restent à fleur de pensée, à fond de gorge, juste sous la glotte. Cela fait presque grésiller les pensées, comme s'il y avait des interférences électrostatiques entre la raison et les émotions. Vous poursuivez la mission, mais le choc émotif n'en est pas moins là, prêt à vous sauter à la figure. C'est la même sensation lorsque l'un de vos collègues est blessé en opération. La mission prime et il faut faire abstraction des perturbateurs psychiques afin de ne pas fléchir ni douter de la justesse de votre cause. Pour continuer à avancer, il faut se dire qu'il y a aussi une personne qui reste au-dessus de la mêlée, donc au-dessus de l'action, pour garder une vision d'ensemble éloignée des contingences émotionnelles. C'est le gardien tactique de la mission. C'est lui qui garde la tête froide et qui rappelle les secteurs prioritaires ou ceux qui sont à gérer en urgence, puisque chacun ne voit plus, sous l'effet du stress, que l'urgence qui est la sienne, et plus forcément celle du groupe à un instant T. Enfin, ce qui vous aide à ne pas péter les plombs lorsque des émotions toxiques sont de la partie, c'est le fait que vous soyez dopé, en opération, par l'adrénaline, qui crée une sorte d'élan dynamique qui masque les émotions négatives et vous donne une énergie positive, volontariste ou combattante. Mais n'allez pas croire que ces émotions négatives disparaissent une fois l'opération terminée. Elles n'étaient que recouvertes par la focalisation sur l'objectif de la mission et chimiquement par l'adrénaline. Mais une fois de retour au bercail, quand on retire le costume, que l'action devient étale, que la pression redescend, alors les émotions négatives immergées refont surface. Après l'opération. Comment faire alors pour se décontaminer après coup et ne pas souffrir de ces résidus émotionnels toxiques? Le meilleur moyen de se dépolluer l'esprit est de prendre la peine de débriefer une opération, afin de comprendre ce qui s'est produit, les enchaînements, heureux ou non, les mécanismes d'influence, les impasses psychiques et les points aveugles que nous avons pu subir collectivement. C'est dans ces moments-là qu'il faut en effet se dire les choses, admettre que l'on s'est trompé ou laissé abuser. Il ne sert à rien de nier les faits. Avicenne avait fait une subtile remarque à ce sujet. Qui commet une erreur, et pour se défendre avance 1000 excuses, commet 1001 erreurs. Le débriefing est un outil de management post-crise irremplaçable et pédagogique. À lui seul, il permet de limiter les erreurs futures et d'apprendre de nouveaux ressorts psychiques. Aussi est-il important d'avoir conscience de notre vulnérabilité face à la dictature des émotions. et se souvenir qu'il ne faut nullement culpabiliser. C'est normal que les émotions, positives comme négatives, nous envahissent. Elles sont de formidables outils d'adaptation au monde et constituent une richesse pour l'homme. C'est la part d'humanité qu'il nous faut assumer. En cour d'assises. Une fois l'opération terminée, Christophe Coppen et ses amis passent la main. Les forcenés appréhendés peuvent être internés en hôpital psychiatrique, d'autres sont renvoyés en cour d'assises, qui jugent des crimes les plus graves, encourant jusqu'à la perpétuité. Certains bénéficient d'une correctionnalisation de la peine, c'est-à-dire d'un renvoi devant le tribunal correctionnel en raison de facteurs atténuants. Si l'acte est jugé émotionnel, c'est-à-dire qu'il survient suite à un accident de la vie, un individu risque 5 ans d'emprisonnement. S'il est criminel, l'addition est plus lourde, entre 7 et 20 ans d'emprisonnement. La cour d'assises est un endroit très particulier, où les clients défilent dans une ambiance souvent pesante, empreinte d'une certaine religiosité. Accusés des crimes les plus graves, comme un meurtre ou un assassinat, la différence entre les deux réside dans la préméditation, certains seront peut-être réhabilités, d'autres, plus nombreux, envoyés au purgatoire. Les clés ouvrant les portes du paradis ou de l'enfer sont confiées à 6 jurés d'assises, autrefois 12, puis 9. Des citoyens lambda, âgés d'au moins 23 ans et tirés au sort sur les listes électorales, comme Marie qui nous raconte cette expérience extraordinaire qu'éclaire pour nous l'avocat général Philippe Bilger, connu pour avoir représenté l'accusation notamment au procès de Christian Didier, François Besse, Bob Denard et Émile Louis, et un des ténors du barreau français, maître François Saint-Pierre. Marie a reçu un premier courrier du ministère de la Justice en juin 2009 pour lui dire qu'elle faisait partie de la liste des jurés susceptibles d'être tirés au sort pour les prochaines sessions de cour d'assises. J'ai éprouvé un sentiment mêlé, de joie et de peur. Et puis le temps est passé et je n'y pensais plus. Presque un an plus tard, j'ai reçu un second courrier me convoquant pour la session du mois de mai 2010. J'étais à la fois curieuse de savoir comment tout ceci allait se passer et impressionnée. Je suis allée rechercher des informations sur Internet, histoire d'avoir une idée de ce qui m'attendait. J'ai alors pris la mesure de l'événement unique que j'allais vivre. Et j'ai été très impressionné d'entrer dans le palais de justice des 24 colonnes, dans le Vieux Lyon, le tribunal où Klaus Barbie a été jugé, et de m'asseoir sur ces bancs chargés d'histoire. La cour d'assises, m'explique Philippe Bilger, est un lieu privilégié, où il y a une singularité de l'atrocité, une singularité de la misère, une singularité de l'intelligence dévoyée, et des moments d'émotion paroxystique qui font que l'atmosphère y est affectivement lourde. Les murs sont comme imprégnés de tout cela. Des tas d'âmes de rebondissements, de suées froides d'anxiété relatives à tout un tas d'affaires antérieures, comme un cuir bien tanné. Et maître François Saint-Pierre, qui connaît bien le lieu, me fait remarquer que la cour d'assises de Lyon, celle-là même qui a ouvert ses portes à Marie, est toute petite, comme la plupart des cours d'assises. On n'est pas loin les uns des autres. Un jour, un témoin me disait après sa déposition « J'étais impressionné, j'entendais l'accusé souffler et respirer à cause du stress. » Évoluer dans un si petit périmètre, qui plus est confiné, ne fait que faciliter la propagation des émotions dans la salle. La mayonnaise pouvant monter très vite. Marie poursuit. Après une demi-journée d'information et d'échanges avec le greffier et le président, nous nous sommes donné rendez-vous le lendemain matin pour la première affaire à juger. Il s'agissait là d'un vol à main armée, et mon numéro n'a pas été tiré au sort. Heureusement, car j'avais vraiment peur, mon cœur battait à 200 à l'heure. J'avais envie de vomir et mes jambes tremblaient. J'avais besoin de prendre l'air, et j'ai passé un peu de temps à récupérer sur un banc dans un parc. Mais je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait absolument que je sois tiré au sort pour vivre un procès de l'intérieur. La seconde affaire était un viol, comme les 3 autres affaires de cette session. Et cette fois, je fus tiré au sort, sans me faire récuser. Récuser signifie en gros rejeter ou refuser. Dans un procès, l'avocat de la défense ou l'accusé lui-même peut récuser jusqu'à 4 jurés, et le parquet, le ministère public, 2, sans avoir à se justifier. Pour l'expliquer, maître François Saint-Pierre évoque un film biographique inspiré de faits réels, Harvey Milk, cet homme politique américain ouvertement gay, qui combattait l'intolérance et militait pour le droit des homosexuels, avait été assassiné à San Francisco dans les années 1970. Les avocats de Dan White, le présumé coupable, ont délibérément choisi comme juré des beaufs, pour reprendre leur expression, sachant sur quel ressort émotionnel ils allaient jouer par la suite pour les convaincre d'aller dans leur sens. Pari gagnant, puisque leur client écopa d'une peine minimale. Toute la justice criminelle, puisqu'elle est à base de jurys populaires, est fondée sur un postulat émotionnel, ce qui, à mon sens, la dessert aujourd'hui. Marie me raconte la suite. J'étais extrêmement contente de m'asseoir et de prêter serment. Le temps s'était alors subitement arrêté. J'allais vivre dans une bulle, enfermée avec des gens que je ne connaissais pas, avec un seul objectif, juger un homme et se faire une intime conviction de sa culpabilité ou pas. Avec elle, dans la bulle, trois juges professionnels, un président et deux assesseurs, qui sont des magistrats du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel, l'avocat général, l'accusé et son avocat de la défense, ainsi qu'une audience composée de proches de la victime et de l'accusé. L'exposé de l'affaire. De quoi s'agit-il ? Une jeune fille accuse son oncle d'abus sexuels. Pendant la période de l'école primaire, elle était gardée et dormait parfois chez sa grand-mère, où vivait également son oncle. Il devait avoir entre 22 et 25 ans et ne travaillait pas. La fillette l'accuse d'être venue la nuit dans son lit pour la forcer à lui faire des fellations et de lui avoir fait subir des attouchements. À partir du collège, la jeune fille, qui avait 15 ans, n'était plus gardée par sa grand-mère. Mais un jour, alors qu'elle se retrouvait seule avec lui dans un appartement en rénovation, il a tenté de la violer. Puis, son appétit sexuel grandissant, il s'en est pris à sa petite sœur. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la poussant à raconter toute l'histoire à ses parents. Soutenue à 100% par eux, elle s'est décidée à porter plainte. Ils se sont très vite retrouvés seuls contre tous, puisque pratiquement tous les membres de la famille, très nombreuse, à laquelle ils appartiennent, se sont dressés contre eux. Tout ce petit monde habitant dans le même quartier, les parents et leurs filles ont été obligés de déménager après le procès. Les faits sont lourds, et cela vous secoue un peu. Maître Saint-Pierre estime que cette première salve émotionnelle, traditionnellement portée à des novices du crime, les jurés, est d'une violence extrême. Comme il le dit, des gens se retrouvent du jour au lendemain à juger une personne dans un box, présumée innocente, certes, mais qui est accusée d'un crime s'étant souvent produit dans un contexte de misère sociale. Par définition, un crime, ce n'est pas joli. On parle de viol et de meurtre. Quand c'est un vol à main armée, c'est encore gentil. Mais généralement, les faits qui sont reprochés à l'accusé sont graves, voire très graves. Je me souviens d'une affaire où un couple avait martyrisé la fille de madame jusqu'à lui déchirer le sexe. Elle avait 4 ans. C'était abominable. Le procès, comme toujours, commençait par l'exposé du crime. Un juré qui n'a jamais vu de près un crime ne peut qu'être tétanisé par l'effroi. Et encore heureux qu'il le soit. Sinon, cela dénoterait sans doute chez lui des tendances psychopathiques. Donc, les premières émotions qui contaminent les jurés font l'effet d'une bombe. Comme si on vous assenait un violent coup de poing au visage. Le cœur du procès. C'est alors le défilé des experts et des témoins. Les psychiatres restent très obscurs. Le premier a un jargon technique incompréhensible. Mais le second est beaucoup plus clair et pédagogue. J'ai compris son analyse, peut-être parce que j'ai suivi des cours en psychologie dans ma jeunesse. Mais pour la majorité des jurés, cela ne les a pas aidés à se faire un jugement. Ensuite, tous les témoins ont été intéressants à écouter. La jeune fille, la présumée victime, que j'ai sentie plutôt calme, était déterminée. La femme de l'accusé, qui nous disait que son mari était un super papa, était aussi touchante. Elle nous expliquait que celui-ci, au chômage, prenait le temps de garder ses 2 enfants en bas âge pendant qu'elle allait travailler comme femme de ménage. Ce qui m'a fait penser, n'a-t-elle jamais imaginé que son mari abusait aussi de sa propre fille lorsqu'elle n'était pas à la maison? Mais c'est surtout la maman de la jeune fille, la victime présumée, qui m'a le plus ému. Quand elle a témoigné à la barre. Très digne, très droite et très belle avec les larmes qui coulaient sur ses joues. Elle disait calmement, Le travail d'une maman, c'est de protéger son enfant. Et je n'ai rien vu. Je n'ai rien fait. Nous nous regardions du coin de l'œil avec les autres jurés, c'était bouleversant. Pour Philippe Bilger, il y a évidemment des moments émotionnels intenses, où le cœur prend une place considérable. L'émotion peut être très fortement ressentie dans la salle, et notamment chez les jurés, lorsque ces derniers voient des familles dévastées ou parfois des accusés enfin accablés par la gravité du crime qu'ils ont commis. Il y a généralement une expansion de la sensibilité lorsque les victimes ont été réellement victimes et qu'elles viennent révéler, dans des moments de vérité d'une rare intensité, ce qu'elles ont réellement subi. Pratiquement 8 fois sur 10, il y a des larmes qui sont, aux yeux des jurés, le plus terrible des réquisitoires. L'ancien avocat général met néanmoins en garde contre ce trop-plein d'émotions, qui, même si c'est très laid de ma part, me confie-t-il, l'agace. Car cela fait craindre le pire au moment du délibéré. Ces moments d'émotion trop extrêmes peuvent profondément perturber les appréciations objectives et, par voie de conséquence, le verdict final. Il est, d'après lui, important de ne jamais laisser déborder la cour d'assises vers une émotivité qui dispenserait les jurés de réfléchir et donnerait l'impression que la sentimentalité suffit pour l'administration de la preuve. Une tendance négative de la cour d'assises est de considérer la victime à partir du moment où elle se présente comme telle. Aux yeux des jurés, elle est nécessairement victime. Or, pour moi, elle ne le devient qu'une fois l'arrêt de condamnation rendu. C'est dans ce sens-là, aussi bien les jurés que moi-même, qu'il nous faut ne pas rester fixés trop longtemps sur une forme d'émotion intense qui nous dispenserait de réfléchir et de questionner. Le coude à coude. Pendant le procès, des questions sont posées à l'oral, aux témoins et aux experts, car tout le principe de la cour d'assises, c'est le discours oral, donc l'art oratoire. On fonctionne comme ça depuis 1791, souligne maître François Saint-Pierre, qui souhaiterait des procès plus objectifs. Les jurés, tout comme les assesseurs qui les accompagneront plus tard en salle de délibération, n'ont pas accès aux procès-verbaux écrits et aux dossiers. Ainsi forgent-ils leur intime conviction uniquement à l'oreille, en suivant leurs émotions et leurs impressions par rapport aux discours, questions, plaidoiries et réquisitoires prononcés pendant le procès. Les dés de ce petit jeu-là sont d'après lui quelque peu pipés. Il faut comprendre que la distribution de la parole à l'audience est totalement déséquilibrée. Le président, qui juridiquement a le pouvoir sur l'audience dont il veut absolument garder la maîtrise, pose toutes les questions qu'il a à poser en premier. Puis c'est au tour de l'avocat de la victime, puis au procureur, et seulement, à la toute fin, à l'avocat de la défense. Dans la tradition française, le président donne alors comme consigne à la lanterne rouge de poser des questions qui n'ont pas été posées avant. Il ne vous reste alors plus que des miettes, qui enflent votre frustration. Vous comprenez bien que selon qui pose la question, l'accusation ou la défense, celle-ci sera tournée différemment, et la réponse, derrière, d'un témoin ou d'un expert, ne sera peut-être pas la même, et donc l'incidence sur le jury toutoui, tout autre. Dans une cour d'assises, l'avocat de la défense qui se sent broyé par la machine doit ainsi vraiment lutter au coude à coude pour rééquilibrer émotionnellement la salle. Il y a très souvent des conflits virulents, du mépris même, entre le président et les avocats de la défense. Ainsi, nous sentons-nous toujours en position d'avoir à entrer par effraction dans le débat. Certains de mes confrères, Éric Dupond-Moretti ou Bernard Ripert en tête, optent pour la méthode dure, employant une stratégie voiture-bélier pour faire entendre leur voix. Leur mode de fonctionnement, que je désapprouve néanmoins, est très en vogue aujourd'hui. Il vise à être brutal, rude, choquant, irascible, heurtant, sanglant dans la manière d'être et de faire. Les émotions qu'ils produisent sont souvent négatives, mais impactantes. Ces ténors d'assises se ressemblent d'ailleurs physiquement tous. Ils sont baraqués et parlent fort, parfaitement raccord avec le personnage qu'ils se sont créés professionnellement parlant. Ce sont des boxeurs de la catégorie poids lourd. Et Philippe Bilger rebondit sur l'exemple de Dupond-Moretti. Un formidable avocat, mais ce que je lui ai toujours reproché, c'est qu'il se donne des facilités. Parce qu'un avocat général pugnace comme je l'ai été ne peut pas le suivre dans sa grossièreté. Face à ce type de comportement coup de poing, je ne pouvais pas perdre complètement toute légitimité devant les jurés en me mêlant moi-même à cette bagarre de rue. À la brutalité, Maître Saint-Pierre préfère une méthode plus douce, revendiquant appartenir à une autre école de pensée, celle de son maître Henri Leclerc, qui est quelqu'un avec qui j'ai plaidé autrefois en cour d'assises et qui, par une autorité naturelle, ne cherchant pas à créer des incidents ni à heurter, posait in fine toutes les questions qu'il voulait. L'incarnation même de Perry Mason. Selon lui, il faudrait un turnover, couper des têtes et les remplacer par d'autres, sans que les minorités émergentes empruntent les masques des majorités opprimantes. Autrement dit, les avocats d'assises de demain ne doivent pas pasticher les ténors de cours d'assises d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut pouvoir imposer de nouveaux codes comportementaux concernant l'émotionnalité affichée qui soient plus féminins. Il faut pour cela que le président de la cour d'assises l'accepte aussi. Or, nombreux sont ceux parmi ces présidents, il y en a des bons aussi, qui ne sont absolument pas prêts à sortir du rapport de force primaire qu'ils entretiennent avec l'avocat de la défense. C'est un antagonisme, c'est donc le plus fort qui l'emporte. Tout cela est pitoyable. Les coups de théâtre. Pendant le procès, il arrive que des coups de théâtre se produisent, éclaboussant émotionnellement tout le monde et rebattant, ainsi, les cartes. Maître François Saint-Pierre en a vécu un, dans l'affaire Agnelet, qui l'a profondément marqué. Il nous raconte. « Je suis l'avocat de Maurice Agnelet, qu'on accuse d'avoir assassiné l'héritière du palais de la Méditerranée, Agnès Leroux. Cette affaire est rocambolesque. Pour retracer très brièvement son historique, sachez que mon client a bénéficié d'un non-lieu en 1986. Puis, il a été acquitté par une cour d'assises à Nice en 2006. L'année d'après, il a été condamné à Aix. La cour de cassation rejette mon pourvoi. Du coup, je vais devant la Cour européenne des droits de l'homme dont j'apprécie l'équité, et je gagne, obtenant donc un nouveau procès à Rennes en 2014. Agnelet est un vieil homme qui serait en proie, c'est du moins ce dont sont persuadés les présidents de cour d'assises qui se sont succédés, à des tensions intérieures, tenaillé par le remords et la culpabilité, hanté par le fantôme de son crime, ce qui expliquerait ses gestes et son attitude bizarre. Ainsi, ces dénégations sont-elles interprétées comme un déni? Peut-être est-ce vrai, mais cela ne constitue pas pour moi une preuve. Le procès de Rennes se tient comme prévu. Agnelet est très virulent et ne passe pas du tout auprès des jurés. Néanmoins, je pense que son acquittement est encore possible, parce qu'il n'y a pas de scène de crime. Nous entrons dans la troisième semaine du procès. Les gens commencent à se connaître et la fatigue, tant nerveuse que physique, se fait sentir. Il y a eu des tensions, des moments émotionnels forts, d'autres plus plats. Et c'est dans ce contexte-là que son fils, Guillaume, vient témoigner à la barre pour y faire une révélation fracassante. « Mon père m'a confié, à mon frère et moi, qu'il était bien le coupable. Ma mère m'a raconté comment tout cela s'était fait. » Je peux vous dire qu'à cet instant précis, toute la cour d'assises fut totalement submergée par l'émotion, la subjectivité. Tout le monde croit cet homme, qui est une force tranquille. Je lis alors sur les visages de tous les jurés de l'accablement. Ils me regardent comme un pestiféré, l'air de dire « Vous nous avez menés en bateau depuis le début. Vous vivez un grand moment de solitude, qu'il faut briser au plus vite. J'ai alors pris la parole car j'étais obligé de protester et d'expliquer que non, je ne savais pas. Et que, pour preuve, Guillaume Agnelet était solidaire de son père lors des deux premiers procès. Comment pouvais-je imaginer que cet homme, proche de moi, qui soutenait l'innocence de son père autrefois, allait ce jour-là raconter qu'il était coupable. Lorsqu'ensuite la mère de Guillaume, l'ex-épouse de Maurice Agnelet, a témoigné pour innocenter son ex-mari, je voyais bien que le président ne la croyait pas. Il était convaincu, encore imbibé par le témoignage très émouvant, il faut l'avouer, de Guillaume. On est totalement dans l'émotionnalité qui s'est infiltrée dans toutes les têtes. Ce secret de famille qui a été livré à la cour d'assises a suscité un ressenti plus fort que tout, un tsunami noyant les faits qui était qu'il n'y avait pas une trace d'ADN, ni un témoin, rien de tangible. La plaidoirie de l'avocat de la défense. Marie aborde la dernière ligne droite du procès. La plaidoirie de l'avocat de la défense, qui intervient à la fin, juste avant la prise de parole de l'accusé lui-même. J'avais l'impression d'être au théâtre et de voir un acteur réciter son texte. J'étais admiratif de son travail, car toutes les questions posées et les réponses obtenues pendant ces 2 jours de procès venaient s'imbriquer, comme les pièces d'un puzzle. Il nous regardait vraiment dans les yeux. C'était dur de soutenir son regard, de résister à son pouvoir de persuasion. Il a appuyé sur le fait qu'il n'y avait aucune preuve matérielle. Les faits qui se sont déroulés pendant que la jeune fille était à l'école primaire étaient prescrits. Aussi, disait-il, la présumée victime a eu une scolarité normale, sans échec, et était, au moment du procès, en BTS, ce qui ne laissait pas entrevoir un quelconque traumatisme vécu. C'était donc la parole de l'une contre celle de l'autre. Je pense qu'à ce moment, ma conviction était faite, et qu'il ne pouvait pas me faire changer. Pour Maître François Saint-Pierre, la plaidoirie ne devrait pas être la récitation d'un discours préécrit. Dans le cas du procès de Maurice Agnelet, par exemple, c'était très compliqué de prendre la parole après la déposition de son fils. Lors de ma plaidoirie, dans une atmosphère surchauffée, j'ai demandé l'acquittement de mon client. J'ai dit au juré que Guillaume rapportait un récit, même s'il le faisait avec sincérité. Mais il n'était pas témoin direct du meurtre. Ce qu'il rapportait, à savoir notamment comment Madame Leroux aurait été tuée, ne tenait pas la route au vu des éléments tangibles dont je disposais. Mais à un moment, j'ai vu que le président de la cour d'assises lui-même ne suivait plus trop mon discours. J'avais perdu son oreille. Il fallait alors la reprendre. Lors d'un tel exercice, il est important de toujours être attentif aux réactions de ses auditeurs, de manière à pouvoir modifier son propos et l'intonation de sa voix pour réaccrocher l'attention qui fuit. Aussi ai-je abandonné ce que j'étais en train de raconter, reprenant aussitôt sur autre chose. S'il fallait retranscrire ce discours, il serait vraisemblablement heurté, voire chaotique. Ma plaidoirie et mes efforts n'ont cependant pas suffi à renverser la vapeur. Le mur était trop haut, et l'intime conviction du président et des jurys, déjà figée dans leur tête. Mon client a été condamné. Après une plaidoirie, on n'est jamais content de soi. On se dit qu'on aurait dû faire autrement, même si les journalistes présents ont trouvé cela très bien. Philippe Bilger n'écrivait pas, lui non plus, ses réquisitoires, qui étaient remplis de réflexions, de pensées, de doutes, d'incertitudes et d'émotions. Pour être franc, il est évident que dans certaines affaires, j'avais particulièrement soigné, dans ma tête et pas sur un morceau de papier, des conclusions et des moments précis que je souhaitais émotionnellement viraux. Je me souviens d'une affaire criminelle où l'individu avait pratiquement tué toute sa famille, sauf une petite fille qui avait réussi à se réfugier dans un placard. Il est évident qu'avec sincérité et, en même temps, une sorte de démagogie et, j'ose le dire, prostitutionnelle, j'interprétais un mélodrame nécessaire délibérément, dans la lignée d'un film de Douglas Sirk. Mais, comme toujours, je délivrais mon propos de manière authentique, car la plupart du temps, c'est moi-même que je mettais dans l'équation. Ainsi, n'ai-je jamais cherché à susciter une émotion chez les jurés et le président que je n'ai pas éprouvée moi, qu'il s'agisse d'un doute, d'une peur, d'une colère ou d'une frustration. Dans cette entreprise de conviction, au moment du réquisitoire, dans la conception que j'en ai, je ne me posais pas la question de la finalité, du verdict. J'étais dans l'instant présent. Ce que je voulais, c'était convaincre. Convaincre en développant profondément, jusqu'à ses extrêmes limites, ce que je ressentais et pensais. Bien sûr, je me servais de figures de style, d'une certaine rhétorique et d'une capacité d'utiliser un éventail d'arguments. Je pouvais aussi voir que tel juré m'agaçait parce qu'il n'écoutait pas bien, qu'un autre avait l'air débile ou que, pour celui-ci, ce que je disais semblait formidable. Mais, à nouveau, j'étais plutôt attentif à me situer le plus intensément possible dans le propre univers que je développais, étant alors persuadé que je convaincrais. C'est très vaniteux de penser cela, mais il fallait que je reste authentiquement moi-même pour espérer qu'autrui puisse être touché émotionnellement dans sa juste dose, afin d'être persuadé. Pour conclure, je dirais que les réquisitoires que je tenais cherchait systématiquement à irriguer l'intelligence par l'émotion, mais jamais à la laisser être dominée par celle-ci.